Mesdames, Messieurs, puisque c'est ainsi que l'on doit commencer une conférence, je la commence donc par ces mots. J'accepterai de tenter de vous communiquer quelque chose par la parole, bien que ça ne soit pas le mode que je choisis habituellement. Je dirai à Georges Moukari, pour le mettre à l'aise, que ce n'est ni sa force ni ma faiblesse qui m'a décidé. Je préfère croire que c'est notre amitié. J'espère que nous parviendrons à nous rejoindre ce soir, malgré cette distance considérable qui nous sépare, et que mon propos ne vous surprendra pas trop. Non pas que je pense qu'il soit original, mais je crains parfois, parce qu'on me l'a dit, que mon langage, qui est celui du peintre, ne soit pas toujours bien compris. En effet, je suis peintre, je travaille avec mes mains, avec mon corps, avec mon cœur, et tandis que je travaille, je réfléchis, je pense, je sens les choses. Pour moi, il est plus facile de les exprimer par des formes et des couleurs que de les dire avec des mots. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un théoricien de l'art, je ne sais pas si j'ai un système. Ma réflexion me semble plutôt naïve au sens originel et primitif de ce mot, et je n'ai pas la prétention ce soir de répondre à cette question terrible qui est posée: qu'est-ce que l'homme? Je n'ai pas la prétention d'y répondre parce que je n'ai pas encore trouvé de réponse formulable à cette question. Je n'ai même pas la prétention d'apporter un éclairage particulier. Je préfère tout simplement cheminer avec vous, parler un peu comme un témoin de ce qui se passe pour moi dans ma vie d'homme, à la fois peintre et à la fois croyant dans le Dieu de Jésus-Christ. En 1897, Paul Gauguin, qui se trouve à Tahiti, peint un grand tableau que l'on peut voir aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Boston, auquel il donne comme titre « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ? » On peut voir dans la partie droite et basse de ce tableau un petit enfant. Dans la partie centrale, un homme gigantesque, debout, les bras levés et cueillant un fruit rouge. Cet homme est un Tahitien dans la beauté de son corps d'or, comme Gauguin aimait les appeler. À la gauche de cet homme, il y a une statue qui fait penser un peu à une statue hindoue, très sombre, à l'arrière-plan, les bras levés comme si elle offrait une prière ou comme si elle attendait quelque chose. Et dans l'angle inférieur gauche du tableau, il y a une vieille femme qui regarde presque en dehors du tableau, et il y a à côté d'elle un oiseau curieux qui évoque probablement la mort. Nous ne savons pas ce que Gauguin a vraiment voulu mettre dans ce tableau. Il en a dit des choses, mais ce qu'il y avait au fond de lui, nous ne le savons pas. Je ne trouve pas étrange qu'un peintre ait éprouvé le besoin de peindre cette œuvre. Je crois que l'exercice de la peinture nous met en face des questions fondamentales sur l'homme, sur le monde, sur le sens. C'est que la peinture est à la frontière des mondes. Elle est à la frontière de ce monde extérieur, objectif, et de ce monde intérieur, notre subjectivité. Elle est à la frontière du réel et de l'irréel, elle joue à la limite de la matière et elle met en jeu l'esprit. Or, nous savons que c'est souvent sur les frontières qu'il se passe des événements importants et intéressants. Je pense que même quand l'homme dit qu'il est un grain de sable, il éprouve le besoin que sa vie ait un sens. Et je crois que ce désir augmente avec l'âge. Tout au moins, je l'éprouve pour moi-même et j'ai pu le constater dans la vie des hommes qui ont mon âge, c'est-à-dire qui commencent à approcher le demi-siècle. C'est qu'au bout, il y a l'immobilité de la mort. Moi aussi, je citerai l'Ecclésiaste. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Trouver le sens, là est la question fondamentale, là est la question qui se pose à moi comme à vous. Je vous propose de tenter de passer le gué avec quatre mots qui intéressent le peintre, mais que vous comprendrez aussi, je l'espère. Ces quatre mots sont le regard, l'espace, le mouvement et la trace. J'ai dit passer le gué. Je reviens sur ce que ma pensée ou le cheminement de ma pensée peut avoir de surprenant pour vous. Peut-être vous semblera-t-il qu'à certains moments je saute allègrement d'une idée à l'autre. Tentez de me suivre sans vous noyer dans la rivière. J'ai fait mention de l'immobilité de la mort. Il me semble tout à fait remarquable que la dernière chose que l'on fasse pour un mort soit de lui fermer les yeux. Cet homme qui vient de nous quitter ne voit plus. L'homme est un être du regard. L'homme est un regardant. Non pas un simple visuel comme le guépard qui voit la cible, cette bête qui bouge, qu'il veut saisir, qu'il poursuit, qu'il atteint, qu'il déchire. L'homme aussi peut se comporter comme un guépard. On le dresse d'ailleurs à fonctionner de cette façon-là et toutes les armées du monde utilisent sensiblement les mêmes méthodes. Mais l'homme est un regardant, ce n'est pas un simple visuel. Et je crois que regarder, c'est plus que voir, comme écouter et plus qu'entendre. La vue est chez l'homme sans doute le sens dominant, et toute sa sensibilité, toute sa pensée, tout son langage même en sont imprégnés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette expression même montre que dans le langage, nous trouvons sans cesse la présence de la vue, du fait de voir, du fait de regarder. Quand l'homme regarde, il voit plus que la cible qui est devant lui. Il voit plus que l'objet qui est sous ses yeux. Notre regard isole les choses. Notre regard fait la différence. Il y a même des slogans publicitaires qui sont basés là-dessus. Faites la différence. Notre regard révèle ce qui est regardé. C'est un peu comme si le regard donnait à la chose regardée l'être. Comme si le fait de regarder, par exemple, cette montre la faisait exister comme montre. Peut-être est-ce cela qui est sous-entendu dans cette phrase que je trouve terrible. Je ne crois que ce que je vois. Je ne peux, je ne veux croire qu'à ce qui existe.
Je ne peux donner ma confiance, c'est-à-dire moi-même, qu'à ceux qui existent vraiment. Et nous avons l'impression que c'est notre regard qui fonde l'existence des choses. Or, vous le savez bien, il y a des illusions d'optique dans la vie courante. Les mirages existent non seulement dans les zones désertiques, mais nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à des choses qui, pour nous, sont des mirages. Je sais bien que ce n'est pas mon regard qui fonde la réalité du monde. Mais le regard a ceci de particulier, c'est qu'il a horreur de ce qui est indistinct. Il a l'impression que les choses ne sont pas vraiment quand elles n'ont pas une forme bien affermie, bien dessinée, et quand les choses sont brumeuses, indécises, le regard n'est pas satisfait. Le regard désire la forme. Et le peintre, c'est idiot, j'ai oublié ma serviette là-bas. Permettez, je vais aller chercher un livre.
Il est dedans. Parce que j'avais une citation en fait.
Le peintre fait apparaître les formes pour les regarder. Je crois que c'est d'abord en cela que consiste l'activité du peintre. Jean Dubuffet a dit là-dessus quelque chose qui est très intéressant, sous le titre justement « Foire au mirage ». Beaucoup abordent les peintures persuadés d'y trouver la transcription de ce que voit le peintre. Peut-être en effet y a-t-il des peintres qui visent à reproduire ce qu'ils voient, mais c'est à leur activité qui s'explique mal. S'ils le voient, ils sont comblés. Et pourquoi dès lors se donnent-ils tant de peine? Pour le faire voir aux autres, c'est bien de la bonté. La peinture me semble privée d'intérêt quand il ne s'agit pas au contraire de se donner des spectacles que le peintre désire voir et qu'il n'a d'autre chance de rencontrer qu'en les constituant lui-même. Le peintre, en somme, tout à l'opposé de peindre ce qu'il voit, comme le lui prêtent certains publics mal informés, n'a de bonne raison qu'à peindre ce qu'il ne voit pas, mais qu'il aspire à voir. Je ne sais pas si, derrière ce désir de se donner quelque chose à voir, il n'y a pas le désir d'autre chose, le besoin de voir autre chose que soi-même, et finalement, si ce besoin de peindre n'est pas une forme inavouée du besoin de l'autre. Il me semble que lorsqu'il regarde, l'homme regarde comme s'il était hors de l'espace. Ce qui est important, tandis qu'il regarde, c'est le fait de regarder. C'est beaucoup plus important que le point de vue adopté. Nous disons facilement dans la conversation à quelqu'un qui nous regarde, mais qu'as-tu à me regarder comme ça? Il semble que le fait de regarder constitue comme un acte séparé, comme si l'espace n'intervenait pas directement là-dedans, alors que c'est pourtant une activité qui s'exerce dans l'espace. Je ne sais pas si, dans le fait de regarder, il n'y a pas un désir extrêmement violent de connaître. Et peut-être est-ce là la leçon du cubisme. Vous savez que, dans la peinture cubiste, les points de vue sont juxtaposés sur la surface plane. Les choses ne sont pas présentées telles que l'œil les voit, telles que l'appareil photographique peut les enregistrer, mais les objets sont présentés à notre regard, à notre appréhension, tels qu'ils sont connus. Je trouve cela singulier, que le peintre veuille présenter les choses telles qu'elles sont. Je trouve aussi intéressant que la plupart des choses que les hommes pensent et conçoivent, dans le domaine de la science notamment, font l'objet de diagrammes et de dessins. Il faut que ça devienne, même lorsque c'est une chose abstraite, et surtout peut-être quand elle est abstraite, il faut qu'elle prenne une forme. Bien sûr, cela correspond à des conventions, mais il faut que cela existe quelque part dans cet espace et sous le regard. Il me semble aussi que quand l'homme regarde, et le peintre bien sûr est par excellence dans cette condition, quand l'homme regarde, il regarde comme hors du temps. Le temps ne compte pas, bien qu'il faille du temps pour regarder. Au temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Nous éprouvons, à certains moments, ce besoin-là. Ce besoin d'être là simplement pour regarder, sans compter le temps, sans prendre garde à autre chose. Quand nous sommes au bord de la mer et que nous regardons la mer toujours recommencer, comme disait Valérie, 10 minutes, 1 heure, ou peut-être le jour, peuvent passer sans que nous nous en apercevions. Il y a là, nous qui regardons, et la mer, comme si cette confrontation ne devait pas avoir de fin. Mais qui est celui qui regarde de cette façon? Que sommes-nous? Disait Gauguin. Est-ce raisonnable, lorsqu'on n'est qu'un grain de sable, ou au mieux un babouin, de se mettre dans cet état-là? L'espace. Le regard, je change de registre, me semble-t-il, fait surgir l'espace. J'ai dit qu'il l'oubliait, et voici que maintenant j'ai l'air de me contredire, en disant qu'il fait surgir l'espace. Il fait apparaître la distance il y a entre les premiers rangs de cette assemblée et moi-même, environ 4 à 5 mètres. Vous êtes là-bas, je suis ici. Le regard, notre regard, le vôtre et le mien, fait apparaître notre situation respective. Nous sommes en vis-à-vis, certains sont à droite, certains sont à gauche, et tout ceci apparaît avec netteté. Comme si, et cela est important, comme si la localisation dans l'espace, la situation, participait de quelque manière, comment, je ne sais pas, mais participait à notre être, à ce que nous sommes. Je crois qu'aujourd'hui, il est habituel de demander à quelqu'un qui tient un discours, mais d'où parles-tu ? De quelle position occupes-tu dans le champ de la pensée, de la philosophie, de l'art d'aujourd'hui, je ne sais pas, d'où parles-tu ? Comme si cette situation participait de l'être. Le peintre touche ceci des doigts tous les jours dans son travail. Les formes et les couleurs ont leur position. Si l'on prend les couleurs, par exemple, vous avez des couleurs qui avancent et des couleurs qui reculent. Les couleurs dites chaudes, par exemple, les jaunes et les rouges, ont tendance à avancer. Et les couleurs froides, disons certains bleus, certains verts, ont tendance à reculer, à être derrière. Si bien que lorsqu'on regarde une peinture, surtout quand c'est une peinture dite abstraite, où nous ne sommes pas occupés par des significations et un symbolisme particulier, nous pouvons voir que certaines couleurs ont l'air d'être comme en avant et d'autres comme en arrière. Elles occupent une position. L'étendue de la couleur intervient. C'est assez amusant à observer. En 1830, Eugène Delacroix peint « La liberté guidant le peuple » et vous pouvez voir ce tableau au musée du Louvre. La liberté brandit un drapeau tricolore et le bleu et le blanc sont cachés un petit peu derrière la tête du personnage. Par contre, le rouge se déploie entièrement dans le ciel et il occupe la partie la plus haute du tableau. Il domine tout comme si c'était la révolution qui l'emportait et Delacroix l'exprime dans la localisation de ce rouge éclatant qui n'est pas mis n'importe où. On retrouve en 1888 dans l'entrée du Christ, le Christ entrant à Bruxelles, peint par James Ensor, On retrouve dans une foule immense qui est carnavalesque, qui est bariolée et qui porte des étendards et des banderoles. Il y a une grande banderole rouge sur laquelle est écrit en grosses lettres « Vive la sociale » et cette banderole touche le haut du tableau, elle n'est même pas complète dans le haut du tableau, elle barre tout le haut et il y a ce rouge localisé, situé dans le haut et qui exprime quelque chose, il y a là comme lettre de la révolution socialiste qui est exprimée dans cette peinture. Vincent Van Gogh, quand il peint le café la nuit, vous connaissez sans doute ce tableau qui je crois se trouve au musée d'Arles, peint cette terrasse de café illuminée d'une lumière jaune très, très crue qui s'oppose au bleu de la nuit. Van Gogh disait du café que c'était un lieu terrible où l'on se perd, où l'homme se ruine lui-même, et il exprimait cela par cette ardeur des jaunes qui deviennent même presque acides à certains moments. Eh bien, ce jaune est localisé sous l'auvent du café, au-dessus des tables où vont s'asseoir les consommateurs, et la localisation de ce jaune dans le centre du tableau crée une impression extrêmement forte. J'ai un oncle qui, pour autant que je le sache, n'est pas croyant, qui s'intéresse, il est à la retraite maintenant, c'est un architecte, il s'intéresse beaucoup à l'astronomie. Un jour, je suis allé le voir dans là où il habite, et je suis entré dans sa chambre qu'il a aménagée d'une façon assez curieuse. Il y a une table, et sur cette table, il a construit toutes sortes d'instruments pour observer le ciel. Il est parti d'écumoires, de passoires, qui lui donnent des demi-sphères. Il s'est construit et il s'est fait construire une espèce d'astrolabe, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, il a gradué tout cela. Et sur sa vitre, il observe la position des étoiles et des astres et des planètes quand il fait clair, et il indique cela avec des petites croix parce qu'il a de grandes baies vitrées. Et ça le passionne, il y passe tous les jours un certain nombre d'heures, il lit des livres, il fait des observations, des études. Et un jour, je lui ai posé la question, mais enfin, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser comme ça à l'astronomie? Il m'a dit, eh bien, je voulais savoir où j'étais dans l'espace, où j'étais localisé dans l'espace. Et il m'a montré... Il a commencé à désosser ses différentes sphères ou hémisphères, et il m'a montré la Terre. C'était gros comme un cochonnet pour jouer aux boules. Et sur cette Terre, il avait collé un tout petit disque grand comme un confetti qui occupait sa position. C'était sa position. Non, moi, je trouve tout à fait singulier comme croyant qu'un homme qui dit ne croire en rien, se préoccupe par rapport à cette immense machine céleste de savoir où il est. Est-ce que nous avons un besoin si fort de ne pas nous sentir comme perdus dans l'espace, d'avoir des références, d'avoir quelque chose? A-t-il trouvé, trouvera-t-il ce qu'il cherche? Qu'y a-t-il derrière ce désir? Je ne le sais pas, mais pour moi, cette préoccupation fait écho à la première question que Dieu pose à l'homme. La première question posée à l'homme, elle doit être capitale, fondamentale, éclairante, me semble-t-il. Eh bien, la première question que Dieu pose à l'homme, c'est « Où es-tu ?» Il convient de savoir où nous sommes. Je crois que c'est extrêmement difficile. Je crois que c'est là la chose importante dans la vie. Et je pense qu'il faut vouloir y réfléchir. L'homme est donc un être de l'espace. Mais il est lui-même espace. Son corps, c'est de l'espace. Je mesure 1m81. Ça se chiffre. Je sens le sang pulser jusqu'au bout de mes pieds. Je sais que lorsque je touche quelque chose qui est chaud, je sais que c'est chaud. Et cela est transmis à travers tout mon corps. C'est à partir du corps même que l'homme construit l'espace. Je dirais que les rapports à son propre corps lui servent à construire cet espace. C'est par rapport à ce qu'il est qu'il y a un devant et un derrière. Avez-vous remarqué que notre face avant est infiniment plus riche d'informations, j'allais dire plus intéressantes, que la face arrière? Je pense que les dos, les nuques ont beaucoup de personnalité. Quand on sait les observer, il n'y a probablement pas deux nuques ni deux dos qui soient semblables. Mais quand même, quand on voit la face avant, on est infiniment mieux renseigné. Il y a un avant et un arrière. Il y a une droite et une gauche. Il y a le haut et le bas. Et c'est à partir de ces éléments-là que l'homme construit tout l'espace. Et il se sert de l'espace comme d'un matériau pour dire quelque chose. Je vois, j'observe que les animaux aussi sont dans l'espace et utilisent l'espace. Ils le parcourent. Et l'homme fait de même. Mais l'animal ne se sert pas de l'espace pour exprimer quelque chose. Il est dans l'espace. Il construit son nid. Il a ses réseaux. Il passe par ici, il passe par là. Les oiseaux que l'on croit très libres sont en fait tout à fait esclaves de parcours fixes qu'ils font journellement de la même façon. L'homme, lui, se sert de l'espace pour dire quelque chose. Sa demeure exprime cet espace et son rapport à l'espace. La demeure ronde des civilisations primitives où l'on vit en cellules fermées, en clans, ou d'autres demeures ouvertes, construites différemment. Le domaine, le temple et son organisation, ce sont des espaces pour dire. L'homme juge l'espace. Si je dis « Monsieur Fernandel a les yeux trop près du nez », j'ai porté là un jugement sur l'espace. Si Monsieur Fernandel était vivant, il pourrait me dire « Et vous, vous avez le nez trop fort ». Nous portons sans cesse des jugements sur l'espace. Dans une nouvelle que vous connaissez peut-être, que Kafka a écrite et qui a pour titre « Le terrier », elle est écrite à la première personne, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas quel est cet être, mais on vit avec lui dans son terrier. Il a construit un terrier en le tassant avec son postérieur, avec ses membres, un terrier très bien agencé, avec une pièce centrale, des pièces annexes, des galeries souterraines qui parcourent ce terrier en tous sens. Il y a amassé des provisions, et voici que cet habitant n'est pas content de son terrier. Il juge son terrier. Il n'y est pas en sécurité. De temps en temps, il sort pour inspecter les alentours, pour voir si on n'a pas repéré les ouvertures de son terrier. Et il redescend. Et finalement, un jour, il entend un bruit dans son terrier. Il ne parvient pas à localiser ce bruit. Il échafaude toutes sortes d'hypothèses qui ne le convainc pas. Il trimballe ses victuailles d'un point à un autre. Il renforce ses défenses. Il creuse de nouvelles galeries pour semer l'ennemi. Il en fait un véritable labyrinthe. Mais il n'est pas content de son terrier. Il n'y est pas en sécurité. Mais au nom de quoi cet être juge-t-il son terrier? Au nom d'un ailleurs qui est où? L'homme utilise l'espace. Mais pour dire quoi? L'espace, ce n'est pas seulement l'espace physique, c'est aussi l'espace psychique, conceptuel, spirituel. Et c'est au nom de cet espace intérieur que nous jugeons tous les espaces, l'espace physique, tous les espaces réels ou figurés comme l'espace pictural. Parce que c'est cet espace intérieur qui ordonne l'espace extérieur. Notre manière de nous vêtir, de choisir nos objets familiers, de créer notre environnement, est en relation étroite avec ce que nous sommes. Je sais qu'on a fait des études sur le vêtement qui, paraît-il, sont très amusantes et très pertinentes sur la relation qu'il y a entre ce que sont les personnes et leur manière de se vêtir ou de se coiffer. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace intérieur ? Nous ne le savons pas très bien. J'ai un ami qui est poète et qui dit souvent qu'il a beaucoup de peine à imaginer l'espace mental des autres. Il dit, vous me parlez de cela, mais je ne vois pas à quoi cela correspond. Je ne parviens pas à me mouvoir dans votre espace. Ce que vous dites me déroute complètement. Je n'y suis pas. Nous pouvons vivre 20 ans, 30 ans, 50 ans, si Dieu nous prête vie, avec le même compagnon ou la même compagne, et ne pas avoir encore compris son espace intérieur. Qui est-il ? Où est-il ? Quand ma mère me dit « Ton père me manque terriblement », je comprends bien ce que cela veut dire, quoique différemment. Mais je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. Parce que je sais où mon père est enseveli, mais je ne sais pas où il est. Quand Saint Paul dit qu'il a le désir d'aller avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, je comprends. Parce que je partage le même sentiment. Mais je ne conçois pas ce lieu où il veut aller. Bien que je sache, bien que je croie profondément que j'irai aussi dans ce lieu, mais je ne parviens pas à le concevoir. Parce que je ne comprends pas comment cet espace intérieur de l'homme n'est pas défait par la mort. Alors on peut se demander, mais est-ce que je ne me suggestionne pas ? Est-ce que tout ceci, ce n'est pas des petites choses qui se passent dans ma tête ? Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'interroger sur ces questions qui tourmentent l'homme et qui sont fort anciennes. Je cite de nouveau l'Ecclésiaste. Dieu a mis en l'homme l'éternité. Et je crois que c'est pour ça que nous nous posons toutes ces questions. Et si nous sommes mal dans notre peau, si nous rêvons d'un ailleurs, c'est qu'il y a des raisons. Nous sommes mal dans notre peau, mais à vrai dire, je ne vois pas où nous pourrions être mieux, parce qu'après tout, cette peau, elle est quand même à notre mesure. J'ai dit que l'homme se servait de l'espace pour dire, et l'espace pictural me semble être, par excellence, cet espace dont l'homme se sert pour dire quelque chose. C'est vrai qu'on a fait des expériences où l'on a fait peindre des singes ou des ânes en leur attachant un pinceau à la queue. Je préfère laisser ces expériences dans la catégorie des divertissements. Je crois quand même que quand l'homme fait des images, c'est pour dire. Et il exprime par là à la fois l'espace réel, puisque nous avons une surface plane, c'est une portion de l'espace physique, de l'espace réel, et en même temps, l'espace figuré. Parce que dans cet espace figuré, il se passe quelque chose. Cet espace devient le signe d'autre chose. Il indique le rapport que l'homme établit avec l'espace réel, l'espace intérieur, l'espace de la pensée humaine et des rapports humains. Si vous allez au centre Pompidou, voir l'exposition de Salvatore Dalí, vous pourrez faire toutes sortes d'observations intéressantes sur l'espace. Dans un tableau dont j'ai oublié le titre, il y a dans la partie droite de ce tableau une ruelle que l'on voit en enfilade. C'est une perspective de vieille rue espagnole qui se termine par une porte voûtée. Au premier plan de cette rue, vers vous, il y a un énorme coffre-fort peint d'une manière hyper réaliste, comme Salvatore Dali aime le faire. On voit la porte close de ce coffre-fort, on en voit le trou de serrure qui a une forme particulière. On est donc saisi d'emblée par cet énorme coffre-fort qui se trouve là, posé au milieu de la rue, à l'entrée de la rue. Et tout au fond de la rue, sous la porte voûtée, il y a une silhouette féminine qui a exactement la même forme et la même grandeur que le trou de la serrure du coffre. Je ne sais pas ce que Salvatore Dali veut dire par là. Fait-il là une allusion à la prostitution, au rapport de la prostitution avec l'argent? Je ne sais pas. Moi, c'est l'idée qui m'est venue parce que, voilà, le rapprochement s'est fait. Mais voilà un espace pour dire, manifestement, il y a là quelque chose qui veut être transmis, qui veut être découvert. Quand, en 1884, Vincent Van Gogh, dans le Nord, fait une série de dessins dans lesquels il étudie le tisserand, prisonnier de son métier à tisser, qui est là comme une cage très lourde, très forte, avec d'énormes poutres, cet homme rivé à son travail, prisonnier de cette cage, je pense que ce métier cage, c'est plus qu'un métier à tisser. Que cet homme qui est là, prisonnier de ce métier, c'est le tisserand, bien sûr, dans sa condition à l'époque. C'est peut-être aussi Van Gogh, c'est peut-être nous, dans notre cage, un espace pour dire. Quand en 1965, Francis Bacon, ce peintre anglais, ce grand peintre anglais, peut-être un des plus grands de notre époque, peint ce triptyque qu'il intitule Crucifixion, où l'on voit des hommes gigots, sanguinolents, saignants, broyés, des espèces de flaques d'hommes, d'écrabouillements d'hommes, admirablement peints, d'une manière tout à fait classique d'ailleurs, mais terriblement peints, c'est plus qu'un écrabouillement comme on peut en voir sur une autoroute ou dans un tremblement de terre. C'est bien au-delà. Cet espace figuré, c'est un espace pour dire, mais pour dire quoi? Pour dire autre chose, quelque chose de plus. C'est sans doute Treblinka, c'est sans doute le goulag, mais c'est sans doute aussi tout ce dont nous sommes capables. Parce qu'après tout, nous sommes ici tranquilles, dans une salle confortable, mais que donnerions-nous dans un incendie au BHV, dans un tremblement de terre, dans la guerre, dans un camp de concentration? Qu'est-ce que je donnerais? Est-ce que je le sais? Et voici, je suis là devant cette peinture, un espace figuré, un espace pour dire, et je suis là à chercher ma vérité. Raoul Dufy peint en 1943, donc en pleine guerre, un beau dimanche. Il y a un kiosque à musique, il y a ces couleurs de fête, il y a cette légèreté de la touche. La guerre n'existe pas, elle a beau exister, un beau dimanche est un beau dimanche. Un espace pour dire un beau dimanche, mais plus qu'un beau dimanche. Quand Bonnard allume notre amour de la vie à ses couleurs, quand Georges de Latour nous incite à la paix, nous apporte la paix, je pense à cette nativité qu'on peut voir, je crois, au musée de Rouen, où la femme, ce n'est pas la Vierge, on ne sait pas, c'est une nativité, mais elle n'a pas d'auréole, c'est une femme comme les autres, tient cet enfant qui dort, qui dort, qui dort, dans une lumière dorée. On se tait, on est là, on attend, on ne sait pas quoi. Ça n'est qu'une image, c'est un tableau, mais c'est plus qu'une image. Quand Rouault magnifie la douleur dans son Miserere, quand il s'empare des couleurs les plus frustres, des matières les plus rugueuses, pour les transmuter, pour en faire autre chose, quelque chose qui fait penser au vitrail, alors que c'est rugueux et épais, c'est plus que ce que nous avons sous les yeux. Et quand Picasso s'amuse pour le plaisir avec les formes, avec les couleurs, c'est toujours plus que tout cela qu'ils disent. Je crois que l'espace pictural est le signe de l'espace de l'homme, même quand l'anti-art nie ce signe et nie cet espace. Même l'anti-art témoigne de ce qui est d'autre, au-delà de ce signe, du signe qu'il constitue. Et je crois, non pas pour me rassurer dans ma fonction de peintre, mais je crois qu'il y aura toujours des images, parce que l'homme a un besoin fou des images pour tenter de savoir ce qu'il est. Et peut-être est-ce à cela que tient leur fascination. Mais l'homme ne peut se contenter de regarder et de penser. Il faut qu'il s'engage. Il faut qu'il se mette en mouvement. Lorsque je suis devant la toile, évidemment, d'abord, je suis là. Je regarde. C'est blanc. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Je le sais sans le savoir. Je le sais sans le savoir parce que je ne peux le savoir qu'en me mettant en mouvement. C'est ce que j'appelle l'obéissance. J'aime beaucoup ce mot-là parce que disons qu'il a mauvaise presse aujourd'hui. On n'entend pas tellement parler d'obéissance aujourd'hui. Mais il me semble que nous sommes tous confrontés à cette obéissance de la vie. Il faut que nous obéissions à la vie. Des fois, on m'a demandé si je faisais de l'art engagé. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Tout art est engagé, mais tout homme est engagé, nécessairement. Et je crois que l'engagement commence avec le regard. D'ailleurs, on le voit au cinéma, souvent quand il y a un moment dramatique, l'action se ralentit, on a l'impression qu'elle cesse, la musique s'alourdit, bien sûr, elle devient grave, elle annonce quelque chose. Mais c'est à ce moment-là qu'apparaissent le rôle des regards. Alors on voit des gros plans sur les visages et on voit des yeux qui glissent d'un côté ou de l'autre et souvent cela déclenche l'action. L'action commence avec le regard. Je dirais que c'est biblique. Job disait « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Je n'aurais pas porté les regards sur une vierge pour la convoiter. Il avait fait un pacte avec les yeux. Parce que c'est déjà avec le regard que le mouvement commence et que l'engagement commence. Nous ne pouvons pas rester là simplement à regarder. Et je crois qu'il y a quelque chose de grave aujourd'hui dans notre époque avec l'usage de la télévision qui fait de nous des voyeurs et non plus des regardants qui s'engagent. Nous sommes là en perpétuel spectacle. Il se passe des choses terribles et nous les voyons se passer. C'est tout. Je crois que nous ne pouvons pas rester dans l'attentisme. L'inaction est impossible. Elle est stérile. L'attentisme est stérile. Tant que nous ne nous engagerons pas, tant que nous ne nous mettrons pas en mouvement, il n'y aura rien. Il faut que le peintre se mette en mouvement, même si c'est un faux mouvement, même si c'est un mouvement qu'il regrette sur sa toile, il faut qu'il se mette en mouvement pour que quelque chose paraisse. Et c'est quand il aura agi, quand il aura fini d'agir, qu'il saura ce qu'il y avait. Parce qu'à ce moment-là, la chose existera. J'ai une de mes amies qui faisait une thèse sur Berthe Morisot. Je crois que sa thèse traîne depuis fort longtemps. Et au début de cette année, elle est venue me trouver en me disant « J'éprouve le besoin, pour arriver au bout de cette thèse, de me mettre à peindre. Est-ce que vous accepteriez de m'aider ?» Je lui dis « Vous savez, je ne peux pas grand-chose pour vous. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de prendre un pinceau et de vous y mettre. » Quelques jours après, elle m'a dit « Bon, eh bien, je m'y mets. » Mais une condition, c'est que vous acceptiez de cheminer avec moi. Alors j'ai accepté de cheminer avec elle. Elle s'est mise à peindre furieusement le week-end, tous les dimanches. Le soir, en rentrant chez elle, elle peint. Et elle est revenue avec ce qu'elle avait fait. Elle me l'a montré, des choses naïves, bellement naïves, très, très, très chouettes, comme on dit. Et elle m'a dit, vous savez, je ne sais pas dans quel pétrin vous m'avez mis, mais c'est que maintenant, je ne dors plus. Je me mets à me demander, mais comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Pourquoi est-ce que cette couleur, elle vient en avant au lieu d'être derrière? Comment est-ce que je pourrais rendre ce que j'ai senti, ce que j'ai compris, ce que j'ai voulu? Elle se met brusquement à réfléchir, à établir des rapports à travers cet espace pour dire, à travers cette réponse qu'elle a accepté de donner au monde, aux formes, à ce qui était en elle, à l'acte de peindre. Elle se met à s'interroger sur le monde des formes. Et je pense que cette interrogation risque de la mener assez loin si elle accepte d'y répondre jusqu'au bout. Je crois que la réponse suit la contemplation, l'interrogation, le jugement et la décision. Il faut qu'il y ait cela d'abord. Donc l'homme est bien un regardant. Il va se servir de l'espace pour dire, en s'engageant par un mouvement de tout son corps, parce que le corps n'est pas en-delà de cela, vous l'avez bien compris, il va s'engager, non pas automatiquement, mais volontairement, par un acte de décision. Parce que si la réponse est mécanique, alors ce n'est pas vraiment une réponse. Personne n'accepte qu'on lui réponde machinalement, distraitement. Le mouvement, c'est l'espace vécu. Et tandis que nous nous mettons à agir dans notre vie, que ce soit pour la peinture ou que ce soit pour autre chose, tandis que nous nous mettons à agir, je dirais que l'espace et le temps sont fusionnés ensemble. Et dans ce que nous faisons, merci, dans ce que nous faisons se trouve inscrit notre dynamisme. La réponse à la vie, l'obéissance de la vie, elle porte la marque de mon dynamisme. Peut-être que si vous regardez mes dessins et gravures qui sont là, peut-être que vous trouverez qu'on reconnaît une écriture, ce qu'on appelle une écriture. Et chacun de nous a son écriture. Nos gestes sont notre écriture. C'est la plus visible, celle que nous avons tout le temps. Notre pensée laisse des marques et c'est la marque de notre dynamisme, c'est la marque de notre engagement. Je crois qu'il faut, absolument que ce que nous vivons soit réellement vécu. Et je crois, parlant comme peintre et à propos de peinture, que la vérité en peinture, c'est d'abord ça. Ce n'est pas peindre pour vendre, ce n'est pas peindre pour être connu, bien que cela ait une importance. Ce n'est pas peindre pour plaire ou pour déplaire, pour se faire un nom. C'est s'engager parce que on ne peut pas faire autrement. Et s'engager, je dirais, pleinement. Et pour s'engager pleinement, je crois qu'il faut savoir à quoi l'on s'engage. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion. Nous ne pouvons pas être devant ce que nous avons à faire, les uns et les autres, de simples voyeurs. Nous sommes des gens qui regardons l'espace ouvert devant nous, et qu'allons-nous mettre dans cet espace? Moi, comme peintre, j'y mets de la peinture. Je ne fais pas que cela, j'y mets aussi d'autres choses. Hein. Je ne vis pas que dans la peinture. Mais chacun de nous, il met ce qu'il est, ce qu'il vit. Et pour cela, je crois qu'il faut le temps. Il faut prendre le temps. On dit habituellement que le temps, c'est de l'argent. Moi, je serais tenté de dire que le temps, c'est de l'être. Il y a une chanson de Georges Moustaki où il dit « Nous prendrons le temps de vivre ». Je crois qu'il a tout à fait raison. Il faut prendre le temps de vivre, complètement. Le temps de vivre,
va des choses extrêmement graves, extrêmement denses, extrêmement profondes, aux choses extrêmement légères, extrêmement aériennes, qui sont tout à fait passagères. Mais tout ça, c'est le temps de vivre. Et il faut prendre tout ce temps d'être. Il ne faut pas vivre par procuration, il ne faut pas être là en attente. Je suis toujours interloqué quand un ami m'accoste en me demandant « Tiens, qu'est-ce que tu deviens ?» Ça me fait toujours quelque chose parce que je sens que le temps est passé, que je ne suis plus au même endroit. Et puis je me demande « Oui, mais depuis la dernière fois que tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie ?» Ça m'interloque. Qu'est-ce que tu deviens? Nous sommes en devenir. Nous sommes dans ce mouvement de tout notre être, chacun de nous. Je ne tiens pas la peinture, ni la pratique de la peinture, pour initiatique. Je ne crois pas qu'elle me révélera moi-même. Je ne crois pas qu'elle me révélera les vérités dernières. Je ne crois pas que l'on parvienne à quelques révélations par la peinture. Je peins parce que je ne peux pas faire autrement. Ça m'est utile, ça m'est même nécessaire, ça m'est indispensable, je ne peux pas m'en passer jusqu'à présent. Mais je n'en attends pas plus. Cependant, il faut que cela, je le fasse complètement. Il faut que je m'y donne entièrement. Il faut que j'agisse. Parce que agir, c'est notre manière d'être à tous. Mais agir pour quoi? Quelle action? Pour quelle trace? Et j'en arrive au dernier mot de mon propos, la trace. Je crois que c'est un mot qui est très important. Le dictionnaire Robert dit que c'est une suite d'empreintes laissées par un être ou par une chose. Quand j'étais enfant, j'étais en Afrique noire à l'époque, je courais dans les hautes herbes et tous mes amis étaient des Africains. Et nous pistions les bêtes sauvages. Alors j'avais été initié par mes amis africains à repérer les traces et à comprendre les traces. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de traces, c'est que, à propos des traces, on aborde, même quand on est un enfant, finalement, des questions fondamentales. L'identité, qui a laissé la trace, l'origine, d'où venait-il, et la destination, où allait-il? Je trouve ça extraordinaire. C'est la question posée par Gauguin. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Il y a toutes sortes de traces. Il y a des traces matérielles, il y a des traces immatérielles, mais toutes, elles posent cette question d'abord de l'identité, puis celle de l'origine et celle de la destination, c'est-à-dire la question du sens. On peut se poser cette question-là à propos de peinture. Quand on voit un tableau de Soutine, Soutine était un être extrêmement tourmenté, je crois encore plus tourmenté probablement que Vincent Van Gogh. Il peignait avec une touffe comme ça de pinceau dans sa couleur, dans sa main, tout badigeonné de couleur, et les pinceaux tourbillonnaient sur la toile, c'était un tourbillonnement de pâte, et il jetait les pinceaux par terre au fur et à mesure. Il peignait dans une sorte de transe perpétuelle, brusque, plusieurs tableaux successifs, et puis il entrait dans des phases de dépression probablement, où il ne faisait plus rien. Que veut dire cette trace? Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur celui qui l'a laissé? D'où vient cet homme? Où va-t-il, cet homme qui laisse des traces? Pourquoi peint-il comme ça? Que cherche-t-il? Où va-t-il à travers ses gestes de peintre? Mondrian, la rigueur. Que des droites, verticales, horizontales, pas d'oblique, parce que l'oblique, c'est déjà le mouvement, c'est déjà la vie. Les couleurs fondamentales, le rouge, le jaune, le bleu. Le blanc, bien sûr, et le noir. C'est-à-dire les éléments de base d'une expression plastique. Rien de plus. Qui est Mondrian? Pourquoi Mondrian peint-il comme ça? Que dit sa trace?
D'où vient-il? Où va-t-il? Où veut-il aller? Que cherche-t-il? On peut se poser le problème, la question, dans quelque domaine que ce soit, en philosophie. Timothée Leary, l'apôtre de la drogue, qui est-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Que veut-il dire? Et ainsi de suite, que ce soit en politique, Hitler et son délire paranoïaque. Qui est-il, cet homme, sorti de l'ombre? Quelle trace a-t-il laissé? Jim Jones en Guyana ou Jésus-Christ? Quelle trace laisse-t-il? Parce que la trace reste, ma trace reste, mes peintures restent, mes paroles, elles vont être enregistrées malheureusement. Et celles qui ne sont pas enregistrées, c'est pareil, elles courent. Et si c'est une médisance, une calomnie, elle court. Elle court. Elle court et je n'y peux rien. Elle court. Et si c'est une idée pernicieuse, elle court. Elle s'installe dans les autres. La trace reste. On dit, il a laissé des traces. La bête a laissé des traces. La trace, c'est ce que nous laissons. Oh, elle peut s'effacer. Hein, dans le désert, le vent passe, au bord de la mer, la vague monte, la trace disparaît. Mais nous savons très bien qu'il y a des traces qui ne disparaissent pas. Et nous savons très bien, dans le domaine de l'intériorité, justement, et dans le domaine de la relation humaine, que la trace, c'est quelque chose qui reste. Elle a une pérennité. Et je vis, que je le veuille ou non, comme peintre ou comme non-peintre, je vis comme un être responsable. Je me sens responsable de mes traces. Et non seulement je me sens responsable, mais c'est que je le suis. En tout cas, je me comporte comme si je l'étais. Et je ne vois pas comment je puis faire autrement, à moins de renoncer à être un homme, à moins de faire n'importe quoi. Maintenant, j'en arrive à la conclusion. Nous avons franchi le gué. Nous arrivons de l'autre côté. Et je dirais nettement et clairement pour moi, d'où vient la lumière? Ce que je dis, c'est une simple déposition, si vous voulez. Je parle comme un simple témoin, je l'ai dit au début, comme un témoin de ce qui se passe pour moi, comme peintre et comme chrétien, puisque c'est dans le cadre d'un centre de réflexion chrétienne que l'on m'a invité à parler ce soir. J'ai dit qu'il fallait s'engager tout entier. Ça me semble être la chose importante d'abord. Il y a dans l'Ancien Testament un vieux texte où Dieu dit ceci: « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » À cette parole fait écho le propos du Christ: ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Les violents, ça ne veut pas dire ceux qui ont une bombe sous leur chapeau. Non, les violents, ce sont ceux qui s'y donnent tout entier, ceux qui cherchent de tout leur cœur. Je crois donc qu'il faut qu'il y ait pour nous, tandis que nous sommes dans notre corps d'homme et sur cette terre, il faut qu'il y ait une quête violente, une quête passionnée de la vérité. Il y a environ 2 ans, je me suis mis à graver une série d'estampes sur la création du monde. Ce n'est pas très original, la création du monde, c'est un thème tellement fascinant. Il y a bien des peintres qui ont été tentés par ce thème-là, et il y a eu des quantités de gravures et de peintures sur la création du monde. Je me suis mis à relire le texte biblique. Bien sûr, j'ai d'abord été frappé par la beauté extraordinaire de ce texte, par l'admirable construction de ce premier chapitre de la Genèse et du deuxième chapitre aussi. Et voici que je suis allé de surprise en surprise. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi 4 pierres pour traverser le gué: le regard, l'espace, le mouvement et la trace. C'est que dans ce texte de la Genèse, voici que je découvre Dieu comme un être du regard. Je vois, j'ouvre la Bible, et je lis, « Et Dieu vit que la lumière était bonne. » Je me suis mis à compter le nombre de fois où le verbe « voir » était utilisé à propos de Dieu. Il est utilisé 7 fois. Vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, et dans la Genèse en particulier, et aussi dans l'Apocalypse, a une valeur symbolique, et c'est le chiffre de la perfection, dit-on. Je vois 7 fois, Dieu vit que. Et ça, c'est surprenant. Alors lui, il est hors du temps, de l'espace, de tout, tout à fait en dehors, il est avant toute chose, et le voilà qui regarde comme moi. Je ne veux pas ramener Dieu à ma mesure du tout, vous comprenez que la distance infinie qu'il y a, c'est pas du tout dans cette optique-là que je me situe, mais en fait, j'ai été frappé, parce que moi, je suis tout le temps en train de regarder comment les choses sont faites, pourquoi elles sont faites comme cela, et cette forme me fait penser à telle autre. Une montre, c'est un soleil, c'est extraordinaire qu'une montre qui indique le temps, ça ressemble à un soleil. Mais sans arrêt, nous sommes devant ces espèces de court-circuits des formes entre elles. Et nous regardons, et je vois, Dieu regarde. Il a fait quelque chose et il regarde. Il est celui qui regarde. Ça m'a beaucoup frappé. Et il est dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Non seulement je le vois comme un être qui regarde, mais je le vois comme un être qui construit l'espace. C'est par lui que l'espace existe en tant qu'espace. Mais il ne se contente pas simplement d'un espace qui est là et qui est, j'allais dire, vide. En fait, je ne sais pas comment l'espace peut être quand il n'est pas construit, parce que ça dépasse. C'est ce que la Bible appelle le néant, le chaos, l'abîme au-dessus duquel l'Esprit de Dieu planait, justement. Mais Dieu construit l'espace, et il construit l'espace pour dire quelque chose. C'est assez singulier. Dans le psaume 19, vous trouvez ces paroles absolument étonnantes. Les cieux, l'espace infini des cieux, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont point des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Un espace pour dire. L'espace cosmique, le mouvement des astres, est un espace pour dire. L'espace terrien est un espace pour dire. Le volcan dit quelque chose. La fleur dit quelque chose. Mais quoi ? Dire. Mais dire à qui ? À l'autre. À l'autre. Je disais que le peintre, me semble-t-il, fait des images pour avoir en face de lui quelque chose d'autre. Il me semble que c'est le premier désir tout à fait élémentaire, mais très profond, de l'autre. Eh bien, Dieu, semble-t-il, a besoin, je le mets entre guillemets avec infiniment de respect, Dieu a besoin de l'autre. Et quand je lis la Genèse, je ne découvre pas Dieu semblable au Dieu que les hommes ont inventé, un Dieu impassible, inaccessible, immobile. Non, je le découvre là comme un Dieu vivant. Et c'est parce qu'il est le Dieu vivant qu'il est le Dieu de la relation. Et quand je débouche dans le chapitre 2, je découvre qu'il fait l'homme à son image. L'homme est fait à l'image de Dieu. Aussi n'est-il pas étonnant que, comme lui, nous soyons appelés à juger cet espace que nous habitons. Parce que quand Dieu crée, il juge, il nous est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Puis Dieu sépare l'étendue qui est au-dessus, et puis celle qui est au-dessous. Il sépare, il nomme, il juge. Et je me découvre, moi, un simple homme, un peintre devant son chevalet, je me découvre en train de juger l'espace que je fais. De dire, tiens, cette couleur n'est pas à sa place. Ou si elle est là, il faudrait qu'elle soit plus large. Ou alors il faudrait que je la descende. Ou que je la rétrécisse pour augmenter celle-ci. Je juge cet espace. Je construis cet espace pour dire. Cet espace est un espace de la relation. C'est l'espace de l'autre. Je dirais, c'est l'espace de mon Dieu. C'est un écho de l'espace de mon Dieu. C'est un écho de ce dialogue que Dieu veut engager avec moi, avec vous, avec l'autre, avec l'homme. C'est là, pour moi, le point fondamental. L'homme est en image de Dieu. Nous sommes des êtres du regard, nous sommes des êtres de l'espace, nous sommes des êtres de l'engagement, et nous sommes des êtres qui laissons des traces qui durent. Nous laissons des traces parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et il me semble que c'est là le sens profond. Et il me semble que, je le crois profondément, que notre monde serait infiniment moins malheureux, il n'y aurait pas les horreurs que nous voyons, si nous acceptions de voir dans notre semblable l'image de Dieu. Il m'arrive, au volant, comme les autres Parisiens, de m'énerver et de donner de méchants noms d'oiseaux à ceux qui sont dans les véhicules à côté. Eh bien, j'ai tort. Je dois dire que j'essaye de combattre cela. Je ne parviens pas toujours à maîtriser ce qui vient en moi, même si ça n'est pas toujours formulé. Ça jaillit là, ce qu'il est en kikinant, celui-là. Comment ? L'image de Dieu ? Je crois que si nous avons la notion d'image de Dieu, nous sommes condamnés au respect de l'autre, même s'il nous en coûte, même s'il faut mener la guerre en nous-mêmes pour respecter l'autre. Mais je crois que c'est à ce prix-là que vraiment la vie peut prendre un sens. La Bible commence par ces trois mots, du moins dans la traduction française, « au commencement Dieu ». Ce sont là les premiers mots du premier livre de la Bible. Et les premiers mots du dernier livre de la Bible, c'est « révélation de Jésus-Christ ». C'est ce que veut dire le mot Apocalypse, révélation. Révélation de Jésus-Christ. Si vous me permettez l'expression, je crois que c'est là le secret de Dieu. Il le dévoile à la fin de son livre, de sa parole. C'est là le secret de Dieu, le Christ. Révélation de Jésus-Christ. Je m'arrêterai bientôt. Je dirai ceci, je ferai observer ceci, la parole créatrice de Dieu précède toutes nos paroles et tous nos engagements. Je parle parce que Dieu a parlé d'abord. Je peins parce que Dieu m'a donné tout ce qu'il faut pour peindre. Je ne signe pas tellement ce que je fais. Et plus j'avance, plus ça me semble présomptueux de signer un dessin ou une peinture. Enfin, soyons raisonnables. Je peins avec des matériaux fournis par Dieu. Les toiles sont extraites des plantes qui existent, c'est pas moi qui les ai fait exister. Les pigments sont tirés du sol ou de la chimie, c'est pas moi qui les ai fait exister. Les pinceaux, etc. Bon, je peins avec les matériaux qu'ils me donnent. Je m'empare des formes qui existent. Elles m'habitent. Mon œil les voit. Ma main les sent. Je m'en sers. J'exprime quelque chose. Ce que j'ai en moi, d'où cela vient-il? Est-ce moi qui me suis fait? Voici que une image naît. Je vais la signer. Je vais me l'approprier comme si j'en étais l'auteur. Mais à la limite, je dirais presque que c'est un usage de faux. J'ai emprunté, tout simplement. La parole de Dieu précède toutes nos paroles et tous nos engagements. Mais la parole et le jugement de Dieu suivent toutes nos paroles et tous nos engagements. C'est pour ça que nous parlons du jugement dernier. C'est celui qui tombera tout à fait à la fin. Et je crois que c'est entre ces deux paroles de Dieu, celle du début, au commencement Dieu, et celle de la fin, que se trouve la réponse du sens de la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que l'homme, mais je sais qu'il faut qu'il trouve le sens de sa vie. L'homme, je l'ai dit tout à l'heure, en parlant du terrier, est un être de l'ailleurs,
Peut-être que c'est ailleurs, s'appelle Dieu.